Donc pour cette troisième table ronde du colloque, les musiques hip-hop au-delà du rap, on voulait revenir sur la tendance à réduire tout un ensemble de pratiques et d'esthétiques musicales à une seule pratique, une seule esthétique, un seul genre, et même parfois un seul aspect de ce genre qui était les paroles, voire les textes. On avait essayé de faire en sorte, dans ce colloque, de faire un appel à contribution qui était assez large. On avait envie de recevoir des communications qui allaient nous parler de beatboxing, de sampling, de turntablism, de R&B, de raga éventuellement, de musiques urbaines ou de toutes les différentes façons de penser, de catégoriser ces musiques. On a eu un résultat en demi-teinte. Vous avez quand même entendu beaucoup de choses sur autre chose que du rap, et en tout cas autre chose que des paroles de rap. Donc il y avait évidemment la communication de Maxence Déon sur le sampling. On a entendu des choses sur l'ensemble des musiques urbaines au Cameroun ou au Sénégal. On a eu hier une communication sur les publics du rap et du R&B. Et cette communication d'ailleurs de Florence Éloi, elle pointait un aspect intéressant. C'était l'absence de... d'intermédiaire, c'est comme ça qu'elle le décrivait, l'absence d'intermédiaire militant pour la reconnaissance artistique du genre R&B. Et cette absence d'intermédiaire militant pour, c'est un petit peu abstrait comme formule, qui est-ce que ça désigne? Ça désigne des journalistes, ça désigne aussi des universitaires susceptibles de faire des livres, de faire des articles, d'écrire sur ces autres formes musicales. Et donc là-dessus, dans l'espace francophone, on est encore au balbutiement des recherches sur l'ensemble de ces pratiques musicales. Dans le champ anglo-saxon, on a par exemple de très bons livres comme celui de Joseph Schloss sur sample-based hip-hop, donc sur le hip-hop à base de samples, qui s'intéresse aux pratiques des DJ, des producteurs. En France, on l'a bien vu sur la table de libraire qu'il y avait hier, les deux tiers ou les trois quarts des livres qui portaient sur les musiques hip-hop portaient en fait sur le rap, voire sur le rap français. Donc pour parler de ces questions, de ces enjeux avec moi, deux personnes que je ne vais pas présenter, justement, je vais les laisser se présenter, parce que l'autre question au cœur de cette table ronde, c'est comment on se définit, comment on se met dans des cases, ou comment est-ce qu'on ne s'y met pas, justement, ou qu'on cherche à ne pas s'y mettre, et avec quels enjeux. Donc, à ma gauche, D de Cabal. Donc D a commencé sa carrière au début des années 90 en fondant avec Jamal le groupe Cabal. Il a ensuite enregistré, tourné pendant plusieurs années avec le groupe Assassin. Et puis D de Cabal a mené ensuite, à partir de la fin des années 90, une carrière solo, sortant plusieurs albums et étant d'ailleurs pionnier sur la diffusion libre sur le web de ses albums et de sa musique, hein, une époque où c'était pas du tout répandu encore. Dès, si je me trompe pas, les toutes premières années de la décennie 2000, certains de tes albums, en 2006, voilà, étaient disponibles entièrement en téléchargement. Ensuite, il a aussi été, il s'est aussi lancé dans le théâtre. Là, je commence déjà à déroger à ma question de la catégorisation, puisque je suis en train de parler d'une discipline par opposition à la musique. Toujours est-il qu'il a été comédien et il a été aussi auteur, notamment la première pièce qu'il a écrite, Écorce de peine, autour de la thématique de l'esclavage, a été jouée à Montreuil à partir de 2006. Il est fondateur de plusieurs collectifs musicaux, notamment le Spoke Orchestra et plus récemment le Trio Schizophonie avec Franco Manara et Raphaël Otchakowski. Un peu plus à ma gauche encore, MKL, qui fait partie depuis maintenant une année d'une équipe de, on peut le dire quand même comme ça, de compositeurs avec, dans l'équipe donc Univers Calp. Et puis qui est par ailleurs l'autre versant de l'activité de MKL, c'est le Workshop Studio, un projet plus personnel que professionnel, me disait-il lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer cette table ronde, et qui débouche sur, aussi bien sur des tutoriels vidéo que sur des formations à la composition musicale en face à face. Donc avant de leur donner la parole, peut-être d'abord pour les laisser se présenter tels qu'ils le veulent, et avec peut-être insister sur les enjeux de cette définition pour chacun de vous, si définition il y a. Deux petites remarques pour illustrer cette question des musiques hip-hop. On a, puisque c'est aussi des gens qui se sont intéressés à ce colloque, hein, le Centre de ressources sur les musiques actuelles, l'IRMA, ils font un travail important de veille et d'information autour des musiques actuelles. Et évidemment, les musiques hip-hop en font partie. Et puis, ils demandent aux artistes qui veulent être recensés et relayés par leurs outils d'information de se mettre dans une case, de se définir. Le gros avantage, c'est que cette définition est libre, c'est-à-dire que dans le catalogue, dans l'annuaire de l'IRMA, les artistes ont un champ libre qu'ils peuvent remplir comme ils veulent. Et là, je vous ai mis quelques exemples relevant des musiques hip-hop, de la diversité des façons dont les artistes peuvent se définir. L'un, par exemple, utilise près d'une quinzaine de termes. Un autre ne va en utiliser que deux. Donc l'un, ça va être jazz, soul, funk, hip-hop, jazzy, new soul et DJ pour battle de danse, b-boy, pop, rock, jazz rock. Et un autre, ça va être bastard hip-hop. Tout ça, ça permet aussi de repenser la question des catégories musicales. Pendant longtemps, les catégories musicales, c'était un bac et pas un autre dans un magasin. Aujourd'hui, avec le numérique et avec d'autres évolutions, c'est beaucoup plus compliqué. Et en réalité, la complexité des liens entre courants musicaux a toujours été beaucoup plus complexe, à la fois dans les circulations d'artistes et dans les fusions esthétiques. Et donc, là, on voit vraiment rien, je pense, là. Bon. Ça, c'est l'espace de l'ensemble des musiques actuelles telles que définies par la façon dont les artistes se présentent. Il y a un lien entre deux mots à chaque fois que les deux mots sont cités ensemble par les artistes. Il y a trois gros pôles qu'on distingue. En haut à droite, c'est un pôle qui est le hip-hop. Juste en bas, il y a un pôle qui est le rock. Et un peu plus à gauche, un pôle qui est la chanson. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que ces trois grands pôles, on voit que ça couvre la plupart des autodéfinitions stylistiques des musiciens des musiques actuelles, et que le hip-hop est au cœur d'un réseau très très dense et très varié de définitions stylistiques et musicales. Je vais vous lire les étiquettes qui rayonnent à partir de en haut à droite, puis je vais faire dans le sens des aiguilles de l'horloge d'une montre. Ça veut rien dire. Des aiguilles d'une montre. Donc tout en haut, on commence avec R&B, on continue avec dancehall, ensuite on a raga, on a rap, on a reggae, on a électro, on a ska, on a funk, on a soul, on a house. Et tout ça, c'est directement relié pour les artistes au hip-hop. Voilà, je m'arrête là et je donne tout de suite la parole, peut-être à MKL pour commencer.
Bonjour à tous. Alors je suis MKL, Mickaël de mon vrai prénom. Je me définirais comme producer, donc le terme anglo-saxon, parce que mon parcours fait que le mot producteur n'a jamais bien fonctionné. Par exemple, je croise une personne et je lui dis que je suis producteur, et il me dit « Ok, je vais te laisser ma maquette ». Je lui dis « Non, en fait, je fais de la musique ». Et du coup, c'est vrai que le terme anglo-saxon est plus représentatif de ce que je fais, dans le sens où aujourd'hui, avec les années, je suis capable de passer par toutes les étapes d'un projet, de la composition jusqu'au master final. Et producer, vraiment, le terme, c'est celui qui englobe tout ça. Il nous est tiré des Américains qui ont cette science-là, des personnes comme Timbaland, Pharrell ou autres, à qui on confie en fait un artiste pour un titre ou plusieurs titres, et qui prennent vraiment tout en charge et qui réunissent les équipes aussi qu'il faut, mais en tout cas ils ont cette capacité de prendre tout en charge. Donc voilà, je suis producer, même si ça peut fâcher quelques personnes que j'utilise un terme américain, mais j'ai pas trouvé mieux en tout cas en France, dans un terme français.
Et peut-être un mot de plus sur, de façon très libre, ton rapport à la catégorie de hip-hop.
Aujourd'hui, ayant rejoint une équipe qui est hyper large dans sa façon d'aborder les choses, le hip-hop, je dirais que ça reste ma source d'inspiration, mais au service de tous les genres musicaux, du coup. Donc voilà.
Merci.
Je t'en prie.
Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis un peu schizophrène, mais du coup, c'est hyper rare. Déjà, je déteste me présenter parce que je trouve ça très bizarre, parce que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas par quel bout prendre ce que j'ai envie de vous confier, de vous transmettre, de partager avec vous. Et en même temps, comme je suis dans plusieurs mondes, est-ce que là je vous raconte juste ce pourquoi je suis venu par rapport à hip-hop, ou est-ce que là je vous parle de qui je suis dans l'absolu? Est-ce que, voilà, c'est toujours un peu ces questions-là qui se battent dans ma tête, et normalement je les transmets pas. Donc là, comme on est sur ce sujet-là, je le dis. Donc si je dois me définir, imaginons que je suis à un dîner d'anniversaire d'un de mes enfants et que je discute avec un adulte de mon âge, ou plus jeune, je parle aussi aux jeunes. Je dirais, pour faire court, que je suis dans l'artistique et que je me considère comme un chercheur sur le verbe et ce que j'appelle la musique vocale aujourd'hui, et voilà, tout le verbe transformé. Voilà, dès qu'un dans un espace peut exister du son qui vient de la bouche, eh ben c'est un espace dans lequel moi je peux exister. Et donc ce soit un espace théâtral, un espace de musique, de concert, etc. Donc globalement, après une bonne vingtaine d'années de travail, c'est comme ça que je me définirai aujourd'hui, sur le mot, le son. Et je ne sais pas si ça parle, mais c'est ce qui est le plus proche de ce que je peux raconter là en quelques secondes.
Et peut-être le prendre les choses un peu de façon... de façon historique pour chacun de vous, est-ce qu'il y a un moment où tu te définissais en premier lieu, voire exclusivement comme rappeur, et à quel moment c'est quelque chose qui peut-être que tu as été amené à le remettre en cause, et avec quelle difficulté ou quelle facilité?
En fait, avec Kabal, nous on a commencé en 1993, et on s'est défini en tant que rappeur jusqu'à ce qu'on fasse écouter notre musique à l'extérieur. Et après, on nous a dit non, c'était pas du rap. Donc, on a vraiment rigolé. Et puis, ça a été ça un peu toute ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours, même quand je crois faire un morceau de rap normal, entre guillemets, les gens écoutent et disent ah bon ? Pour moi, c'en est, en tout cas. Mais, donc, et en fait, on a été très, très vite, de manière intime, un peu allergique aux cases. Parce que, influence multiple, envie d'aller ailleurs, envie d'explorer. Et c'était un peu plus fort que nous. Là, pour rapidement, quand je suis arrivé tout à l'heure. Il y avait les chaises et je me suis vu prendre une chaise derrière pour mettre dans autre chose qu'un rang, quoi. C'est plus fort que moi, tout est comme ça tout le temps et c'est pas calculé. C'est si je dois me considérer ma place, ce sera toujours dans un ailleurs. Et il se trouve qu'aujourd'hui j'ai la chance d'exercer et de fabriquer mon ailleurs. Mais pour moi, rap c'est comme jazz, c'est une énorme boîte avec plein de choses dedans. C'est pas du tout péjoratif, c'est super riche. Et il y a un fossé entre Onyx et Trap Call Quest, entre moi et Nekfeu, voilà, et c'est ça que je trouve. Et moi, je fais partie des gens qui attendaient ça, qui attendaient que ça continue à se diversifier. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de choses. Je fais partie des quelques gens de ma génération qui sont pas atterrés par ce qui se passe, mais plutôt super gourmands et avides de découvrir des choses et se dire ouais, il y a de plus en plus d'offres et c'est très très excitant. Surtout quand on a vu, moi je suis un peu de la deuxième génération, je suis pas la première génération, mais quand on a vu les choses éclore et puis les propositions se diversifier. Donc oui, rappeur étant celui qui s'exerce à faire du rap et qui fait du rap. Après, la musique que je fais, il y a des trucs très très larges, très très variés. Est-ce que c'est du rap? Et honnêtement, j'ai arrêté de me poser la question depuis une quinzaine d'années, quoi. Mais après, et puis j'ai quitté aussi les bacs, comme tu disais. J'ai un projet qui est sorti en 2006, qui est en téléchargement libre et gratuit. C'était hyper important pour moi parce que en me posant la question de qu'est-ce que j'avais envie de faire, la première chose c'était de partager la musique. Et donc je suis sorti des bacs pour y revenir très très rarement. Et parce que je ne m'y sens pas à ma place, en fait. Il y a un truc qui ne marche pas, qui ne me correspond pas. Je suis un très mauvais vendeur de disques. Et je pense qu'il y a aussi différents corps de métier dans ce métier-là. Donc c'est pas. C'est comme si j'avais réussi à fabriquer un espace dans lequel l'enjeu n'était pas le genre. Même si, quoi qu'il arrive, on a toujours besoin de cocher une case quelque part. C'est très désagréable, mais il faut toujours le faire. Donc, pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, avec ma compagnie de théâtre, on se posait encore la question, enfin pas nous, nos tutelles, voilà, est-ce qu'on nous mettait dans musique ou dans théâtre? C'est l'histoire de ma vie, quoi. Et je refuse de choisir. Je dis, bon, ben, ce sera ça, et puis l'année prochaine, ce sera autre chose, puisque tous ces genres s'interpénètrent.
Donc ta réponse, c'est si on t'oblige à cocher une case, tu vas cocher une case différente à chaque fois, quoi?
Bah, si je veux être clair avec moi-même, oui, oui. Ça dépend des périodes et ça dépend de ce sur quoi je travaille.
MKL ?
Alors, pour ma part, je ne pense pas que j'ai eu affaire à de grosses difficultés, dans le sens où j'ai grandi avec des frères DJ et DJ de mariage, genre je passe de tout. Du coup, je rentrais le soir de l'école et mon autre frère avait acheté les vinyles de disco, les premiers trucs de hip-hop, MC Solar, ce genre de choses. Donc du coup, mon oreille s'est habituée à écouter de tout et surtout à être curieux de tout. Les seules difficultés que j'ai eues, c'est quand j'ai commencé à rapper, parce que c'est de là que tout a démarré. Et être blanc à lunettes, alors qu'Eminem n'a pas percé, c'est difficile à l'époque. Et aussi être timide, c'est incompatible en fait avec l'esprit du rap aussi, enfin même aujourd'hui, hein. D'autant plus aujourd'hui. J'imagine qu'à l'époque c'était encore plus relax sur ça. Mais en tout cas pour ma part, du rap jusqu'à la production musicale, j'ai pas eu de difficultés en tout cas à créer et à dialoguer avec les autres, peu importe qu'ils soient rockers, jazzeux ou des gens de l'électro. On trouvait toujours un terrain d'entente parce que cette nouvelle génération, elle est hyper ouverte aussi à tout, je trouve. Donc du coup, c'est facile de dialoguer, je trouve, aujourd'hui. Et puis hier aussi.
Et c'est facile de dialoguer avec les artistes, c'est facile de dialoguer aussi avec les différents intermédiaires ou avec les publics, etc., les journalistes, les institutions éventuellement avec lesquelles il faut composer. Ou est-ce qu'il y a aussi un peu comme ce que Dé évoquait pour toi, la question de « bon bah là on est devant un formulaire, faut cocher une case » ou « là on est devant un ou une journaliste et il faut lui donner quelque chose de compréhensible
bon, » en fait,
pour ces catégories.
en fait, je pense que... comme j'ai fait toujours preuve d'empathie, si j'avais quelqu'un qui était un peu à l'ouest sur la question du hip-hop, genre la mairie de Limay où j'ai grandi, quand il fallait organiser la fête de la musique, le hip-hop c'était une grosse blague dans leur bouche, quoi. C'était, ils savaient pas vraiment les codes, etc. Et moi je prenais pas ça vraiment mal, quoi. Je me disais, bah, c'est juste des personnes qui ne connaissent pas et qui peut-être demandent à être informées pour mieux connaître justement la population et tout, donc... Voilà, ça c'est un exemple comme un autre. La fête de la musique, c'était bon bah écoutez, on peut faire ça, mais on peut faire aussi ça. C'est pas que arracher un micro le rap, c'est on peut faire du beatmaking, on peut faire du scratch, faire plein de choses comme ça. C'était beaucoup résumé en tout cas au rap et puis au rap violent, les paroles violentes, etc. Pour les gens des hautes fonctions.
Tu parles de quelle époque là?
Je parle des années 2000.
Je reviens sur ce qui est dit. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais moi, je n'ai pas rencontré de difficultés sur ces questions-là. C'est juste, j'ai pas l'impression d'avoir. Après, voilà, on a eu des groupes, on a fait des disques, donc il y a eu des galères inhérentes à l'aventure. Mais j'ai pas l'impression, d'avoir galéré pour expliquer ce que je faisais. Au contraire. Et ce que tu disais sur les institutions et les maisons de disques, par exemple, moi, je fais partie des gens qui très très tôt ont dit. J'ai plus d'affinité avec un élu du PCF de Seine-Saint-Denis qu'avec un DA de Sony Music. Ça, c'est évident, évident. Et ça s'est très, très vite vérifié. On se retrouvait face à des gens politiquement instruits et qui avaient envie de faire des choses et qui étaient dans le terrain. Et en comparaison avec des gens qui étaient des vendeurs de machines à laver. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, ben, à cet endroit, j'ai un écho. À cet endroit-là, on ne parle pas la même langue. Et puis, voilà, se vendre, c'est un truc particulier. Moi, je suis pour... Je suis pour l'art non lucratif parce que c'est ce que je sais faire le mieux.
Ah, je t'ai bloqué là.
Non, tu m'as pas bloqué, je suis en train d'hésiter entre deux trucs en fait. Il y a une question qui m'intéressait beaucoup, que j'ai un peu fait que esquisser là. On a eu des communications, de conférences très intéressantes mercredi et jeudi, notamment jeudi. Sorata Fernandez est revenu sur les rapports de force au sein du hip-hop entre les pays du Nord et du Sud. Qu'est-ce qui se passe quand un rappeur états-unien se rend à un festival de musique à Cuba? Quel rapport il a avec les artistes de la scène locale? Je pense qu'on pourrait poser cette question entre beaucoup de pays différents à différentes échelles, que ce soit dans des aires régionales, le rapport entre des rappeurs français qui vont se produire en Suisse ou en Belgique ou à l'échelle internationale. Des continents différents, mais cette question des rapports de force au sein du hip-hop, voire des rapports de pouvoir et de domination au sein même du hip-hop, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur en comité d'organisation, parce que c'est peut-être un des espaces où on peut le poser en des termes constructifs pour nous. Et un de ces rapports de force qui m'intéressait, c'était justement celui entre les courants musicaux, les genres musicaux, dans ce que différents intermédiaires en font, dans les différentes ressources, comment la répartition des ressources et de la notoriété se fait. Et il y avait une tournée qui est en cours en ce moment, l'âge d'or du rap français, dont les premiers enregistrements, les premières performances enregistrées ont été faites l'été dernier. Il y a eu une diffusion sur France O. Et il y a un artiste de la scène soul R&B qui fait partie par ailleurs de cette tournée, qui s'appelle Carl The Voice, qui a réagi après avoir vu le visionnement de ce concert en pointant la maladresse d'un des animateurs ou d'une des animatrices du concert en disant voilà, Jimmy Sissoko, figure très connue de la scène rap des années 90 et des années 2000, quelqu'un qui a fait énormément de morceaux, qui a été à l'origine de beaucoup de tubes. Quelqu'un qui relève plutôt qui chante, quelqu'un qui rappe aussi, mais qui est surtout connu pour ses chansons, en fait était ravalé au rang de choriste. Et donc c'était quelque chose qui pointait un peu l'espèce de rôle et de position subalterne que le R&B en particulier, mais les chanteuses et les chanteurs en général pouvaient avoir vis-à-vis des rappeurs dans le regard d'un certain nombre de personnes, que ce soit du public, que ce soit des intermédiaires ou que ce soit des artistes eux-mêmes. Donc je voulais un petit peu avoir votre avis, pas forcément sur les rapports entre rap et R&B, mais sur on va dire des rapports de force comme ça, des légitimités différentes. Alors ça peut être le beatbox, ça peut être par exemple les rapports entre compositeur ou producteur et MC, etc.
Sur l'exemple que tu viens de citer, c'est assez parlant parce que il y a plein de choses qui se répercutent, enfin qui se télescopent sur une histoire comme celle-là. Et après, moi, ce qui me fait doucement sourire et qui est un peu typiquement français, c'est que Jimmy Sissoko, pour ceux qui suivaient le parcours du bonhomme, le mec a fait dans les années 90 ce que Drake fait aujourd'hui, quoi. Le gars chante et rappe, c'est un des plus, techniquement, c'est un des meilleurs, vraiment, vraiment. Donc, imaginez quelqu'un qui dise de Drake, c'est un choriste, parce qu'il fait un featuring, c'est juste hallucinant. Et donc, ça raconte la méconnaissance de cette musique. Ça raconte à quel endroit ceux qui en parlent. Alors, moi, je suis pas dans le trip, même si j'aime bien le slogan par nous, pour nous. Si je suis pas dans le trip, si tu connais pas, tu peux pas en parler. C'est pas ça. C'est qu'il y a un minimum. C'est-à-dire que n'importe qui travaille sur un projet travaille son sujet. Donc, de dire de Jimmy Sissoko que c'est un choriste, tu connais pas ton sujet. Une fois que tu connais pas ton sujet, quelle légitimité ça te donne pour parler de cet art-là, de ce monde-là à la télé? Ben, aucune. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui est la chaîne qui défend ce projet? Quelle radio est derrière ce projet? Quelle est la connaissance de cette radio sur cette musique en général? Ben, c'est très très limité. C'est ça que ça raconte. Et pour moi, il n'y a pas forcément des rapports de force, c'est des rapports d'intérêt. Donc une radio qui défend un projet musical pour faire de l'audimat, pour générer de l'argent pour les artistes, hein, c'est très bien. Hein. Quand un morceau passe à une radio, si t'es joué, ça change ta vie, quoi. Si t'es joué régulièrement, donc c'est plutôt cool. J'ai pas de détestation pour l'argent, mais c'est des conflits d'intérêts. C'est pas la même chose. Donc c'est là que ça se pose. Et après, ensuite, ça se répercute à une autre échelle sur les artistes dans leur façon de travailler. On a toujours eu différentes écoles. Tel type de rappeur bosse sur tel type de rap, etc., etc. Donc je pense qu'il y avait aussi, il y a aussi une volonté de s'affirmer en termes d'identité musicale. Nous on fait tel type de musique, etc. Et de fait, si je maquille mon art pour passer à la radio, pour être plus à l'aise pour travailler, etc., etc. Voilà, comment ça transforme mon art? Est-ce que c'est une chose que je vais faire après? Est-ce que c'est une chose que je vais renier, que je vais assumer, etc.? Ça pose toutes ces questions-là. Ça pose la question de qu'est-ce que ça coûte pour être super visible. Et les artistes ont fait des choix, assumés ou pas, ça a eu des bonnes conséquences ou pas, et ensuite on se retrouve 20 ans après à avoir des gens qui sont à la base de morceaux qui ont énormément marché, qu'on qualifie de choristes, avec en plus ce truc de choriste, c'est secondaire, quoi. Alors que...
Pour ma part, à l'époque, je sentais déjà la personne qui fait le refrain... Le chanteur qui fait le refrain dans un morceau de rap, il est relégué un peu au second plan. Il y avait un côté, je vais l'utiliser, vraiment. Je le sentais, c'était même devenu normal d'en parler comme ça. Moi, quand je rappais à ma petite échelle locale, etc., dès qu'on se disait, ouais, il nous faudrait un titre un peu plus ouvert, on parlait mal, en fait. On disait, oh, on va se trouver une petite chanteuse, un petit chanteur... Il y avait quelque chose de pas très cool dans notre manière d'en parler. Et c'est vrai que je ressentais ça vraiment déjà à l'époque. Après, pour passer à la seconde partie de la question, sur les rapports de force, bien sûr, dans le rap, on en a tous connu. pareil, à la petite échelle, moi, ça n'a pas dépassé Paris hein, à l'époque. Et je sentais déjà que sur des tremplins, quand j'arrivais, Mantes-la-Jolie, les muraux, etc., je sentais qu'il y avait des petites tensions. Chacun restait dans son coin et il n'y avait pas de... Les gens ne se félicitaient pas pour les projets, ils ne s'encourageaient pas avant de monter sur scène. J'ai senti que ça a changé quand même. Aujourd'hui, il y a plus, les gens ils sont plus cool par rapport à ça. Donc ça, ça a bien évolué. Après, dans le beatmaking, ça par contre, le beatmaking, c'est dingue, mais ça n'a jamais posé de problème que je puisse proposer des prods dans le sud ou plus loin que ma ville, quoi, sans problème. Les gens là, ils sont ouverts parce qu'ils ont besoin de ça, je pense. Et ils sont voilà, juste dépendants d'avoir un beat et du coup il faut pas se froisser un beatmaker, je sais pas, il y a un truc comme ça aussi.
Et avec les autres beatmakers,
les liens. Compétition, bah, mais ça a changé aussi parce qu'à l'époque c'était chacun dans son coin et l'arrivée du net et puis les nombreuses soirées etc. Je pense que je sais pas, les gens ils se sont détendus, ils se sont dit au fond c'est que de la musique. Il n'y a pas de problème, quoi. Et aujourd'hui, quand je vois des clashs, des choses un peu violentes, je me dis que c'est juste du divertissement. Alors qu'à l'époque, c'était pas vraiment un divertissement. Je trouvais que c'était de la vraie violence. Aujourd'hui, ça me fait marrer, moi.
Mais c'est vrai que le hip-hop, c'est un ensemble de disciplines qui viennent de la confrontation, du clash, de la compétition. Donc ça, c'est toujours un peu resté. Même s'il y a eu plein de chemins qui ont été pris, il y a toujours ce truc, être meilleur que le suivant, être plus fort que le précédent, et puis déjà soi-même être plus fort que le jour d'avant, etc. etc.
Moi, je vais peut-être soulever un dernier point, qui est plus une ouverture qu'une question. Je ne sais pas si ça vous donnera envie de rebondir, mais c'est quelque chose qu'on a pu tout un chacun déjà remarquer auparavant, mais ça apparaissait aussi pendant ces journées. C'est que, évidemment, les étiquettes, elles n'ont pas le même sens selon les pays, selon les lieux. Une des choses qui paraît assez claire, je parle sous le contrôle de Murray Forman, s'il est toujours par là, non, il a fait une petite pause, c'est que dans le contexte états-unien, hip-hop, musicalement, c'est vraiment associé à rap, et notamment que tout ce qui est contemporary R&B, etc., c'est un courant à part entière, qui a sa propre généalogie, et qui n'est pas inclus dans la conception ordinaire de ce qu'est le hip-hop. En France, c'est plus ambivalent. Il y a des acteurs et des actrices qui vont l'inclure et des acteurs et des actrices qui vont l'exclure pour différentes raisons, que ce soit des programmateurs, que ce soit des journalistes, que ce soit des artistes, que ce soit les publics. Et puis, il me semble aussi que ce que j'ai cru deviner sur ce qu'on comprendre à partir de ce que pouvait évoquer Amadou Falba la première soirée ou de ce qu'a pu dire Jean-Marcelin Manga, qu'au Cameroun ou au Sénégal, finalement, la notion de musique urbaine, elle n'a pas les mêmes sonorités, pose pas les mêmes problèmes qu'elle peut poser dans le contexte français, problèmes qu'avait évoqué notamment... l'intervention de Becquet autour du Calilois. Donc je voulais un peu vous entendre sur ces questions-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de collaborer avec des gens d'autres pays, si vous avez eu des observations sur ces périmètres et ces enjeux locaux différents.
J'ai eu la chance, moi, de voyager un petit peu. Il y a eu deux électrochocs, c'était Dakar et São Paulo au Brésil. Où il y avait quelque chose de très très pur dans l'approche. Bon, ça date un peu, hein. C'était autour des années 2000. Mais notamment au Brésil, par exemple, pour les gens de la communauté hip-hop, rappeur, c'est un peu une insulte à l'époque. Et on disait MC. Et le MC, c'est celui qui rappait, mais qui en plus touchait les platines, dansait, faisait du graph, il faisait toutes les disciplines du hip-hop. Et en disant MC, il était inclus dans le hip-hop, c'était quelqu'un de hip-hop. Et quelqu'un qui était que rappeur, c'était... vraiment la lead de la société hip-hop, quoi. Et à Dakar, à l'époque où j'ai travaillé là-bas, j'avais bossé avec un gars qui s'appelle Mano, un groupe qui s'appelait BMG 44. Et à l'époque, eux, ils étaient un peu au centre de la tourmente parce qu'ils avaient dénoncé... c'était du rap super hardcore. Et eux, ils s'attaquaient aux marabouts, ce qui était vraiment le truc le plus dangereux à faire là-bas.
Et donc les mecs parlaient des marabouts qui détournaient des fonds, etc., dans leurs cassettes qu'ils distribuaient. Et donc il y a eu quelques agressions, enfin, des trucs assez chauds, quoi, où c'était vraiment, j'entendais, quand je suis arrivé, ça parlait un peu de ça. C'était vraiment, c'est un vrai, vrai engagement. Et puis moi j'ai vu à la télé une manifestation de rappeurs, un truc complètement hallucinant. Et donc voilà, les choses. Et le gars me disait, écoute, on est à Dakar au Sénégal, si tu dis que tu rappes, tu fais la chose sérieusement, quoi. Si tu te permets de dire à ta famille, mon métier c'est rappeur, tu veux pas, on n'est pas dans le divertissement. En tout cas, c'est ce que j'écoutais, ce que j'entendais moi dans ce réseau-là, et c'était hyper fort. C'était hyper fort au point où nous on travaillait que sur une pièce de théâtre qui était Malcolm X de Mohamed Rouhabi à l'époque, et on avait eu un débat parce que le mec refusait de se mettre en costard parce que pour lui c'était Puff Daddy, c'était pas, etc. Donc on a eu tout un débat, c'était hyper intéressant sur ce que ça voulait dire de s'habiller comme ça par rapport dans le contexte de la pièce de théâtre, etc., etc. J'ai dit beaucoup etc., je m'en excuse, mais c'est pour signifier à Karim que le temps est trop court. Voilà, il a reçu le message. Et donc voilà. Et au Brésil, pareil, il y avait vraiment ce truc de hip-hop total, quoi, où un gars pouvait passer derrière les platines, se mettre à danser, rapper. C'était, on épouse toute la culture hip-hop.
Concernant les difficultés qu'on rencontre en France, je pense que ça vient du fait que c'est pas notre culture, le hip-hop déjà de base. Elle est arrivée, elle est pas née ici, clairement. Et du coup. C'est ce qu'on se disait, je pense qu'il va falloir qu'une génération disparaisse pour que le hip-hop prenne sa vraie place, tout simplement. En fait, j'ai remarqué en faisant des beats et en écoutant les beats des autres, que, en tout cas à une époque, ce qui marchait le plus, c'était quand il y avait un piano, des violons et un peu de chant. Et ça fait référence clairement à la musique classique, à notre héritage classique, et aussi à la variété française qui est ancrée dans le piano et le violon, quoi. Donc du coup, je pense que ça a eu des dommages collatéraux aussi sur le hip-hop, parce que après c'est dans les samples aussi qu'on choisissait. Du coup, si on avait des vinyles de variété, bah forcément on se retrouvait confronté à piano-violon, donc on samplait ça et ça se retrouvait dans le hip-hop. Mais pour moi, c'est resté bien ancré, et pareil, on commence un petit peu à s'en détacher de ça.
Piano-violon, il y a aussi le fait qu'il y a eu un courant comme ça aux États-Unis et qui est arrivé en France un peu après. Et puis aussi ce truc où il y avait cette espèce de pédagogie dans l'écoute. On arrivait avec une musique un peu nouvelle et puis on parlait à des gens qui étaient en maison de 10, etc. Il fallait qu'ils retrouvent quelque chose, quoi. Il fallait qu'ils retrouvent la belle boucle, le beau son de violon, le beau piano. Et c'est ça, c'est en ça que je parlais de divergence d'enjeux. C'est qu'en France, il y a une grande tradition de « le rap doit plaire à ceux qui ne le connaissent pas ». C'est vraiment comme ça qu'on s'est construit, parce qu'il a fallu faire avec ça. Et tu parlais du R&B. Aux États-Unis, les chanteurs de R&B, ils viennent de la soul et du gospel. Il y a une vraie tradition là-bas. Et ici, tu le disais, moi par exemple, je suis atterré par le succès qu'a eu un chanteur comme Renaud ici. Mais musicalement, je ne parle pas des textes, etc. Je parle de la musique, le chant de Renaud. Pour moi, c'est une alu totale. Et ceux qui crachent sur Joule, ok, vous avez écouté du Renaud. Non, il faut se le dire. C'est-à-dire que techniquement, vocalement, le mec, comment il chante, c'est vraiment très particulier. Et donc, entendre que Renaud, c'est particulier, et dire que Jules, c'est particulier, ça nous met à un endroit où on préserve l'écoute. Et moi, ce que je fais au quotidien, c'est ne pas perdre l'écoute. Et donc, effectivement, imaginez Renaud en DA pour des groupes de R&B, quoi. Ta-ta-tan, c'est particulier, quand même.
Donc, pour les rapports entre rap et variété, on a eu une belle illustration de Maxence Déon sur NTM samplant Richard Klederman. Ça avait l'air d'être... Il est possible aussi d'avoir visiblement un rapport un peu plus compliqué au sampling et de produire des choses un peu moins sonnant, un peu moins variété. C'était, je pense, un des points importants de l'exposé. Et on va peut-être, avec cette petite transition, passer la parole à la salle et vous laisser rebondir aux questions